Que j'aime, c'est maintenant parce que c'est vendredi et vous allez voir, bande de petits vénards, ce que j'ai au programme. Au programme, j'ai du théâtre, de la musique, du théâtre, de la littérature, un DVD admirable, de l'opéra et également de l'art contemporain, c'est merveilleux. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai présenté vous, monsieur
Benjamin Dahan.
Et vous êtes là pour quoi ?
Je suis là pour la pièce Les Fascinés que je mets en scène avec Pierre Marguéry, auteur et metteur
qui
en scène.
Qui va se présenter ? Donc Pierre, c'est vous, c'est lui ?
Oui, c'est ça, bonjour. Je suis auteur, comédien et metteur en scène et je viens vous parler de Les Fascinés, une réécriture du mythe de Salomé.
Et on m'a dit d'ailleurs qu'il faisait très bien des claquettes aussi. Monsieur, vous êtes ?
Bonjour Marie-Laure, c'est bon. Johan Grandcyr, votre...
Le retour ?
Tout à fait.
Johan. Et Johan, vous venez nous parler de quoi ?
Je vais vous parler de photos et de théâtre. Et,
oui, mais quel titre la pièce ?
Alors, Les Amants Terribles.
Tout un programme. On pense un petit peu à Jean Cocteau et à Jean Marais.
On peut y penser même un peu plus.
On peut, ouais. C'est extraordinaire. Voilà. Eh bien, je vais tout de suite commencer par un grand coup de cœur que j'ai eu en regardant le DVD 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon. Donc, Martin Bourboulon avait commis des Trois Mousquetaires qui ont fait se retourner dans sa tombe quand même. L'auteur et moi-même, parce que quand même, D'Artagnan tué à la fin et beaucoup de choses. Bon, ces Trois Mousquetaires, je les ai trouvés exécrables, je l'ai dit et je l'ai redit, malgré, et ça c'est petit de sa part, d'avoir mis François Civil, pour lequel j'ai un très grand faible. Voilà, bon, ça, tout le monde est au courant. 13 jours, 13 nuits, on est à Kaboul, le 15 août 2021. Les Américains partent et les Talibans prennent la ville. Donc ça veut dire exaction, meurtre arbitraire, et c'est la fin de la liberté pour les femmes, quoi qu'ils en aient dit. Et quand on voit aujourd'hui la position des femmes dans ce pays où il faut interdire entrée de tout ressortissant mâle d'Afghanistan en France. Ça, ce n'est pas dans le film, c'est moi qui le dis et je le dis. Donc le 15 août 1921... Le seul bastion où on peut encore espérer se sauver, c'est l'ambassade de France, qui est complètement assiégée, qui a déjà réussi à renvoyer ses ressortissants français. Il y en avait beaucoup à Kaboul. Et là, on a un personnage tout à fait extraordinaire, alors le courage de l'ambassadeur et du commandant Mohamed Bida, qui, avec ses hommes, vont essayer d'accueillir un maximum de gens et surtout de trouver une solution pour aller à l'aéroport. Mais naturellement, il y a des troupes partout et lui, avec un courage infini, il va négocier avec des talibans pour arriver à emmener les gens qui sont dans l'ambassade et qui ne font pas partie du personnel de l'ambassade, les emmener à l'aéroport. Roche Dizem est absolument extraordinaire. D'ailleurs, tous les comédiens sont fantastiques. Il est tellement investi dans le rôle du commandant, c'est qu'on oublie qu'il s'appelle Roche Dizem. Voilà. Et avec un courage, une détermination, c'est une histoire vraie, hein, parce que le commandant Mohamed Bida existe. D'ailleurs, Kaboul, il a donné sa démission. On le comprend, parce que ce qu'il a vécu est absolument terrible. Et avec un courage, une détermination, il va arriver à faire sortir de l'ambassade les gens qui y sont. Et croyez-moi, c'était pas gagné. Nous avons également Lina Koudry, qui est une merveille de comédienne. Non seulement elle est jolie comme un cœur, mais c'est une excellente comédienne. Sidze Babeknuksen, qui joue une journaliste. Et mon petit préféré, Christophe Montenez, sociétaire de la Comédie-Française, qui a fait le rôle d'un militaire. Il est fabuleux, ce comédien. De toute façon, Christophe est bon dans tout. Donc voilà, c'est comme ça. Ok, d'accord, je ne me suis peut-être pas complètement... Mais si, il est merveilleux dans tout, il suffit de l'avoir vu dans le soulier de satin. Et on est absolument pris dans cet enfer qui est devenu Kaboul. C'est un thriller haletant, même si on sait la fin. Mais peu importe, on a peur pour eux à chaque fois qu'ils sont sur un contrôle par ces talibans qui ne reconnaissent rien, dont certains sont des crétins finis, mais d'autres sont très intelligents. Ne dites pas que j'ai dit que tous les talibans étaient des crétins. Et même si pour moi, arguer Dieu, il pleure en voyant les talibans, hein, je vous le dire, il pleure quand il voit les talibans. Et là, on est mépris aux tripes, littéralement, pendant plus d'1h50, et le film est remarquablement réalisé. C'est une caméra qui est nerveuse, c'est une caméra qui va avec ses comédiens, on est presque à la limite d'un certain de documentaire, et on est entièrement avec eux en empathie, et on pense aussi à ceux qui n'auront pas pu se sauver naturellement dans ce combat contre la haine et l'horreur. Voilà. Donc ce film, c'est 13 jours, je pense qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Vraiment. Je dois dire que je l'ai regardé d'un souffle, alors ce qui n'est pas gentil pour une asthmatique, mais enfin, je l'ai regardé d'un souffle, et le film a plu à tout le monde, parce que j'ai un panel représentatif. On a tous été hallucinés parce qu'on connaît l'histoire de Kaboul, mais là, on a l'impression d'être carrément à Kaboul, et d'être pris et de se demander, mais est-ce que je vais pouvoir m'en sortir, et même quand ils sont dans l'avion, quoi, jusqu'au bout, c'est se demander est-ce qu'on va y arriver, quoi. Donc, et c'est la peine des soldats. On voit les soldats américains qui sont obligés de refuser tous ces gens qui viennent et qui demandent de partir. Voilà. Donc, c'est 13 jours, 13 nuits. Martin Bourboulon, on est réconciliés tous les deux. Voilà. Je t'ai quand même pas pardonné les trois mousquetaires. Mais enfin, quand même. Mais Roche Dizem, Lina Koudry, Sidze Babek Knudsen et Christophe Montenez sont absolument exceptionnels. C'est chez Pathé. Ça sort, là, c'est sorti mercredi. Donc, dès que vous aurez écouté l'émission, vous pouvez aller l'acheter. Je vous garantis sur facture que vous serez pris au cœur et au corps. Et pris au cœur et au corps, c'est nous allons faire tout de suite un premier extrait musical avec Iphigénie en tauride de mon vieux pote Christophe Wilbad Gluck.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et oui, vous êtes bien sur IDFM 98, la radio qui vous aime, mais qui aime également les artistes, puisqu'aujourd'hui, j'ai avec moi le grand...
Johan Grandcyr,
Pierre Margueri,
Benjamin Dahan.
Et aux manettes, Manita Zeplata, Francky et Marie-Laure au micro. Donc, c'est une pièce de Pierre. Mais Pierre, vous avez écrit, vous avez commis votre première pièce et vous avez décidé d'être fasciné.
Exactement, c'est même ma deuxième pièce, puisque j'avais écrit Le Sommet des Innocents l'année dernière. Et c'est par contre ma première réécriture. Voilà, je reprends le mythe de Salomé, avec pour première idée de creuser la psychologie des personnages et de réduire à quatre les personnages de la pièce de Wilde, puisque je garde Hérode, le roi, Hérodiade, sa femme, et aussi sa belle-sœur, Salomé et Jean, Jean-Baptiste.
Alors, on va quand même repositionner un petit peu le sujet, parce que peut-être que deux ou trois auditeurs ne connaissent pas Salomé. Donc, nous avons un roi
voilà.
qui règne en Galilée.
En Galilée, Hérode, donc c'est Hérode Antipas, le fils de Hérode le Grand. Mmh. Ça se passe vers l'an 30, à peu près. C'est une période un petit peu, on va dire, mouvementée, puisqu'il y a plusieurs prophètes qui naissent ici et là. On parle d'un retour du Messie, mais personne ne sait qui c'est. Donc certains disent que c'est Élie, d'autres pensent que c'est Jésus, pensent qu'il ne reviendra pas, qu'il n'est pas revenu, qu'il est revenu il y a des millénaires. Enfin, donc voilà, c'est une période un petit peu agitée. Et dans mon histoire, Salomé revient d'exil, de Rome, pour revenir donc en Galilée dans le palais du roi Hérode, où elle retrouvera aussi sa mère, Hérodiade, qui est la belle-sœur d'Hérode, qui a fait tuer donc l'ex-mari d'Hérodiade.
Bon, c'est le 30 ans.
C'est un rythme de vie pour l'époque tout à fait normal.
Qu'une époque bénie, on pouvait trucider son mari qui vous emmerdait, maintenant on a des problèmes.
Hein. Ou sa femme.
Ah ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Donc on a des problèmes. Et donc Salomé est extrêmement choquée par ça.
Salomé est un peu choquée par ça. Elle fait la rencontre de Jean, qui est prisonnier d'Hérode, parce qu'il a tendance à insulter, on va dire, le couple royal, parce que c'est un couple impie. Et donc elle tombe amoureuse de Jean, même si ce dernier l'insulte. Et comme c'est l'anniversaire du roi Hérode... ce dernier, se croyant vraiment tout puissant au-dessus de toutes les lois, de tous les hommes en tout cas, va lui demander de faire une danse pour lui. Elle lui demande de jurer et il jure de lui donner tout ce qu'elle veut comme récompense en échange de sa danse. Donc la suite du mythe,
ne
c'est ce qui est le plus
pas
connu.
Tout, pour ceux qui ne connaissent pas. voilà. Donc la danse des sept voiles, naturellement, voilà. Donc, quatre personnages. Alors, votre troupe, vous avez une troupe, Pierre, tous les deux, vous avez une troupe.
Exactement, on a une compagnie qui s'appelle la compagnie Les Somnambules, qu'on a montée il y a un peu plus d'un an maintenant, tous les deux, avec Chloé Pay, qui joue également dans la pièce. Et donc, c'est notre deuxième projet après la première écriture de Pierre, qui était Le Sommeil des Innocents. Et donc, qui se jouera d'ici maintenant quelques jours, du 19 au 22 novembre.
On s'est rencontrés en fait à l'école Claude Mathieu.
Ah, très bonne école.
Merci. Oui, c'est une super école dans
le
18e.
Très bonne école, absolument, oui.
Et voilà, c'était à la fois une rencontre humaine évidemment, mais aussi théâtrale. On partage vraiment un goût commun pour un théâtre à la fois sur des sujets d'actualité philosophique, mais aussi avec toujours une histoire humaine, parce que pour nous... voilà, ça nous tient à cœur d'avoir toujours une histoire, un décalage, et que ça soit pas uniquement une parole portée sur le plateau, mais qui puisse être un peu, sans que ce soit péjoratif, mais quelque chose de journalistique qui se fait assez souvent aujourd'hui, mais qui peut être un peu, selon moi, peut-être la marque d'un manque de confiance de l'intelligence du spectateur, par exemple. Nous, on avait vraiment besoin de ce décalage-là, de passer par une histoire. Voilà.
Alors j'ai l'impression que dans la famille, vous êtes tous plus ou moins des artistes, parce que je vois un très beau tableau de Roland.
Oui, c'est ça, c'est mon grand-père qui était donc peintre et sculpteur.
Je dois avouer que jusqu'à maintenant, je ne le connaissais pas du tout. Mais il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. J'adore, c'est très très beau. Votre
Merci.
Père est...
Mon père est organiste.
Est organiste, c'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés.
Exactement. Voilà. Il est titulaire au Sacré-Cœur et puis il est aussi organiste à Lyon, à l'église Saint-Bonaventure et professeur au CNSMD. Et je me suis servi de certaines improvisations qu'il avait faites à l'orgue dans la pièce, justement.
Ah, c'est dommage, j'aurais dû vous demander. Vous n'avez pas une clé USB, on pourrait en mettre un petit peu tout à l'heure, non?
Je l'ai sur mon ordinateur, je crois. J'ai ça.
Vous me cherchez ça. Hein, ah, vous avez vu, hein? Hop, hop, hop. Tchoups. Parce que Glouc, c'est bien. Glouc, c'est très, très bien. Mais c'est bien aussi d'avoir... en plus, j'adore l'orgue. Et je sais que votre père a fait une visite guidée de l'orgue. J'ai fait un coucou à Amélie, parce que sans Amélie, vous ne seriez pas là non plus. Voilà.
Merci.
Monsieur Johan Grandcyr.
Voilà. Oui.
Attention.
Il y a des questions?
Oui. Vous avez eu un coup de foudre, de cœur pour des amants.
Alors, j'ai eu un coup de cœur avant tout pour une pièce, une écriture, parce que pour une fois, c'est pas d'après et...
Non, c'est une création, la
c'est
pièce.
C'est une vraie création, une création de Carole Giacobbi et de Stéphane Vautier. Ils se sont intéressés à la période de l'occupation et plus exactement, dans cette période, à un couple mythique qui, avant Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, ont mis la question sur le plateau, c'est Jean Cocteau et Jean Marais. Donc, Carole Giacobbi a réussi le tour de force à nous proposer une pièce qui nous fait vraiment rencontrer ces personnages, qui nous expose
passion.
Une vérité, une passion et aussi une différence de point de vue et de façon de vivre par rapport à une situation horrible qui est l'occupation et où doit-on trouver sa place dans cette situation. Et surtout, moi ce que j'ai aimé, c'est que d'abord, j'ai beaucoup ri, je me suis pas ennuyé, parce que ça arrive quand même qu'il y ait quelques longueurs.
Ça peut arriver.
Et là, comme c'est un texte écrit de A à Z, après recherche, ça pouvait être un peu périlleux.
Ouais, ouais.
Là, j'y suis allé avec un petit groupe, parce que j'aime bien avoir des avis
complémentaires. Oui, t'as un homme de
corde. Oui, voilà. Ouais. Nous avons tous adoré ce spectacle et nous le plébiscitons. Il est jusqu'au 16 novembre, au Funambule, dans le 18e, du jeudi au dimanche.
À quelle heure?
Alors ça dépend des jours.
Oui,
donc
alors,
ça, je vous laisse regarder le Funambule.
Parce que le Funambule fait semaine paire et semaine impaire.
Ah,
voilà.
Ou pas.
Donc, si, t'es. Alors, j'aimerais que tu nous donnes le nom des interprètes. Qui fait Jean Marais?
Alors, Jean Marais, c'est Luca Malieva. Boris Terral, c'est Jean Cocteau.
Boris Terral.
Oui.
Qui est un magnifique comédien.
Bah oui, je te le dis.
Superbe. Ouais,
l'autre aussi est pas mal non plus.
Oui, oui, mais Boris, je le connais, si tu veux, voilà. J'ai eu l'occasion de le voir jouer plusieurs fois et non seulement il est très beau garçon, ce qui ne cache rien.
Coco Chanel, d'après toi, qui pourrait faire Coco Chanel? Quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui est...
Jeanne Moreau?
Non.
Mais elle est plus disponible ces derniers temps.
Non, on a dit quelqu'un qui a du caractère et qui est un peu disponible.
Jeanne Moreau,
qui est un peu disponible.
Oui, je ne sais pas, j'écoute.
Eh bien, Emmanuel Galabru.
Ah, j'aime beaucoup Emmanuel Galabru. Beaucoup, beaucoup.
Oui, oui, oui.
C'est une excellente comédienne.
Excellente comédienne et elle arrive à camper le personnage de façon exceptionnelle.
Ah, très bien.
Et une petite jeune, parce que malgré tout...
Oui. Ça va faire plaisir à Emmanuel.
Ah bah, Emmanuel est une petite jeune qui a de la bouteille.
C'est, tu t'enfonces là.
Non,
tu t'enfonces.
Non, parce qu'avoir de la bouteille, c'est aussi avoir de l'expérience et pouvoir rebondir correctement quand le trou se présente.
Mais c'est parce qu'elle est extrêmement mobile. Il s'enfonce. Donc, et alors la
Valentine
petite jeune...
Kip,
comment t'écris ça?
K-I-P-P.
Ah, Kype, d'accord, très bien. Okay,
qui
donc
joue
c'est vrai...
Edith Piaf et Mila Parelli.
Ah, elle joue Mila Parelli aussi.
Oui.
Et Mila Parelli qui était une comédienne qui
Tout
jouait
à fait.
Entre autres dans La Belle et la Bête.
Et c'est d'ailleurs...
J'écoute.
Peut-être une piste sur cette pièce.
Ah ah.
Mais je n'en dirai pas plus.
Si vous n'avez pas vu La Belle et la Bête, c'est un chef-d'œuvre qu'il faut absolument voir. Le film...
Alors moi, je vous invite à le voir après avoir vu la pièce. Parce que vous comprendrez certaines choses de La Belle et la Bête après avoir vu cette pièce. Parce que Carole a vraiment fait un travail de recherche tant au niveau des costumes, au niveau des looks, qu'au niveau de l'histoire même entre Jean Marais et Jean Cocteau. Et c'est la première fois que j'arrive à...
Ne sois pas déconcentré. Ne sois pas déconcentré.
À me sentir comme toi, comme quand je suis avec toi, à côté d'un monstre sacré. Vous voyez, parce que c'est souvent difficile d'être avec un personnage qui est sur scène et qui reste un personnage. Or là, on est vraiment avec ces deux monstres sacrés, voire ces trois.
Et tiens à dire que malgré tout, je reste extrêmement simple.
Complètement. Voilà. Mais c'est aussi
simple, mais c'est compliqué.
C'est une des caractéristiques des monstres sacrés.
Bah absolument. Quoi qu'il y en a.
Quand ça sonne faux.
Et d'ailleurs, est-ce que tu sais qui a inventé l'expression monstre sacré?
Alors là, je te laisse la parole.
Bien, c'est Jean Cocteau.
Ah, tu vois.
Dans les années 1914, il a inventé l'expression monstre sacré. Je t'embouche un coin.
Pas du tout, mais je le savais. Je préférais que tu le dises. Donc, tout ça pour dire, Les Amants Terribles, jusqu'au 16 novembre, au Funambule, de Carole Giacobbi et Stéphane Vautier. Je vous le conseille. Et si jamais vous n'arrivez pas à avoir de place, je vous conseille à surveiller la prochaine sortie, parce qu'il y aura forcément une suite. Ça va forcément se retrouver dans un théâtre plus grand, avec plus d'audience et encore plus de talent.
Et plus près de nous, ça serait formidable. Alors, je voulais vous parler d'un livre qui a fait un tabac lorsqu'il est sorti. Barjavel, La Nuit des Temps. Lorsque c'est devenu même un livre culte pour plusieurs générations. Barjavel a sorti ce livre en 67, que c'est assez important. Et l'auteur, dans les premières rééditions, tenait à ce qu'on dise qu'il ait écrit ce livre avant les manifestations estudiantines de 1968. Qu'avons-nous ? Nous sommes au pôle. Il fait pas chaud, hein, c'est, je vais vous le dire tout de suite. Et il y a une équipe internationale de scientifiques qui vont faire une découverte incroyable. C'est-à-dire qu'ils vont creuser. Vous savez, on fait des carottes glaciaires, des choses comme ça. Et là, ils trouvent quelque chose qui met au rencard tout le savoir que l'on pensait, des certitudes, vraiment... sous le carré 612, c'est-à-dire, on est quand même à quelques centaines de kilomètres du pôle sud, ils vont trouver quelque chose d'extraordinaire. Ils vont trouver des traces de monuments, des traces de monuments, mais enfouées très profondément. Et les premières études donnent un rapport à l'âge où ce n'est pas possible. Théoriquement, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de dinosaures, il n'y avait pas ça. Mais ils vont continuer, et alors, forcément, le contact, ça se met en poussière, ils continuent et ils arrivent à une structure qui est en or pur et qui est un œuf. Et il y a des Américains, des Français, des Russes, des Colombiens, des Belges, des Suisses, tout ça. Et ça, tous se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et ils vont réussir, je vous la fais courte quand même, ils vont réussir à creuser dans cet œuf et ils vont trouver deux êtres d'une beauté saisissante, presque surnaturelle. Donc, alors là, quoi faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'en ai sur mon plateau, c'est vous dire si je suis gâtée. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On avertit, naturellement, chacun avertit des pôles scientifiques. Et dans ces pôles scientifiques, il y a Simon, qui est notre héros, qui est un médecin. Et il faut entourer énormément pour pas que ça se désagrège. Il faut trouver tout ce qu'il y a, on est quand même à ces années-là, il y a quand même une grande découverte spatiale, des choses comme ça, ils vont trouver des trucs. Donc, ils vont réussir, ils choisissent de remonter d'abord la femme et de tenter de la réveiller. Donc, la pauvre, elle se réveille de ces milliers d'années sous la glace. Elle a très peur de ces gens, même si physiquement, ils ne sont pas si éloignés que ça. Sauf qu'elle est d'une beauté... Le mot serait sidéral, mais voilà. Et ils ont des problèmes de communication. Qu'est-ce qu'elle parle ? Donc, il va y avoir toute une recherche. On va mettre un pôle scientifique universel pour réussir à parler avec elle. Donc là, tout de suite, on a la connerie humaine de ceux qui veulent posséder et avoir la preuve. Et Simon tombe amoureux de cette jeune femme qui est d'une beauté. Alors, le monde qu'elle nous dépeint personnellement ne me fait pas vraiment beaucoup rêver parce que vous avez une sorte d'ordinateur central qui vous dit qui sera l'homme ou la femme de votre vie pour l'année. On mange des gélules, des compléments alimentaires. Alors, ça va plaire aux wok, hein, parce que on tue pas les animaux. De temps en temps, quelques légumes, mais voilà. Mais pourquoi est-elle là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le monde a été ravagé par la chose la plus stupide au monde, qui est la guerre ? C'est un roman puissant, philosophique, avec un romantisme incroyable. On est plongé dedans, on lit. Moi, ça fait passer des livres que je dis qui sont complètement vampires, parce qu'on ne peut pas s'en décrocher. Je disais que c'était important pour Bajavel de signaler qu'il avait écrit avant 68, parce qu'à un moment donné, il y a des jeunes qui manifestent pour protester contre tout ça, et surtout contre cette guerre, où ils savent que la guerre détruira tout le monde, mais la folie des hommes est telle. Voilà. Donc en ce moment, je dois dire qu'on est dans la folie des hommes à une puissance où tous les militaires du monde sont en train de nous dire qu'il va peut-être falloir faire quelque chose. Mais la nuit des temps va vous embarquer dans une nuit merveilleuse, une nuit très bien écrite où l'amour est plus fort que tout. Nous allons savoir en écoutant le prochain extrait musical. Alors parlez-nous de ce que nous allons entendre. Là, Pierre ou qui veut.
Alors, on va
pas Johan, ça le concerne pas.
On va entendre la première improvisation de Gabriel Margueri, donc mon père, qui est dans le spectacle. Il en a fait trois d'affilée en fait, et la première, c'est donc un peu l'exposition d'un des thèmes qui reviendra plusieurs fois.
Donc en avant-première.
Exactement.
C'est comme ça chez nous. Thank you. Nous venons d'écouter cette magnifique improvisation à l'orgue, et j'adore l'orgue. D'ailleurs, un jour, il faudra que je reçoive votre père. Ça me ferait grand plaisir de faire une émission avec lui. Et donc, c'était pour le spectacle. Tu peux le lire, tu sais lire.
Non.
Le nom du spectacle.
Les Fascinés.
Voilà. Et ça se joue où et quand?
Ça se joue au Théâtre de la Jonquière, donc dans le 17e, du 19 au 22 novembre à 20h. Et on est déjà complet le samedi 22.
Donc c'est génial.
Donc il reste 2 jours. Donc il reste 3 jours. 19,
alors,
20 et 21 novembre.
On a parlé de la nuit des temps et j'ai tout simplement oublié de vous dire, c'est une édition collector dans les presses de la cité qui fait, il faut le dire, achetez, vous verrez, ça plaît à tout le monde. Et c'est bien d'avoir ça. Petite annonce également de 2 spectacles. Un qui s'appelle « Ma famille en or », une comédie de Joseph Gallet et Élodie Wallace, mise en scène par Anne Bouvier, qui non seulement est une remarquable comédienne, mais également metteur en scène. Elle a mis en scène l'expérience théâtrale, qui est une pièce de... J'ai un trou, c'est épouvantable. C'est avec François Berléand et Monsieur Boulbil. Max Boulbil et Berléand, on se dit, ah oui, comment, mais pourquoi? C'est une pièce de Laurent Ruquier. Et nous avons les comédiens qui sont assis au théâtre, en face de nous, et on est tous comédiens. C'est bien fait, ça fonctionne très très bien. C'est un joli spectacle et je pense que Anne nous parlera plus tard de son expérience de mise en scène. Mais je voulais en parler dès aujourd'hui, n'attendez pas. Aussi, au Théâtre des Amantiers de Nanterre, je suis allée voir un spectacle incroyable qui s'appelle Faust X. Adaptation, mise en scène et conception de Brett Bailey. Alors, Brett Bailey a un théâtre très spécial. Il vient d'Afrique du Sud et là, le festival de Weimar lui a fait une commande. Donc, tout le monde sait que Goethe est mort à Weimar et que il a écrit une sorte de suite de Faust. Et Brett, my friend Brett, a fait ce travail qui est lui particulier, c'est-à-dire qu'il est très visuel, avec on a de l'art marionnettique, on a des tableaux formidables où il met Faust aussi dans un monde qui n'est pas très youpi, puisqu'on verra quand même, on nous parle d'un pays qui est ravagé par la guerre, mais où un des hommes politiques est l'un des diables avec ses têtes, ses masques incroyables, va parler de faire une Riviera. On pense à quelque chose? On pense à Trump? On pense à quelque chose? Oui, on peut y penser. Et chaque tableau avec des accessoires, avec des images qui sont d'une force incroyable, c'est une expérience qu'il faut aller voir. Moi, je dois dire que j'ai trouvé ça formidable. Là, le spectacle, vous ne pouvez plus aller le voir à Nanterre parce que c'est terminé, mais le spectacle va être en tournée et donc je vous recommande vraiment d'y aller. Et à Nanterre, ils proposent souvent des spectacles comme ça qui sont tout à fait formidables et innovants. Monsieur Grand-Cyre.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour Johan. Vous avez à nous parler, je crois, d'une galerie.
Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler photo surtout, parce que c'est le mois de la photo.
Exactement.
Novembre.
Exactement.
Donc
il y a
pléthore d'événements autour de la photo. Et oui, et la semaine prochaine, le phare de ce mois-ci, c'est Paris Photo, évidemment, mais il y a plein de choses qui se passent autour. Le salon approche, Photo Days, tout ça. Et c'est justement parce que c'est la photo et parce que là, je vous propose un voyage dans le temps et dans la créativité, puisque je vous propose d'aller au studio Franck Horvath à Boulogne.
À Boulogne.
Qui propose, avec le salon Approche, un dialogue, puisque c'est la 5e année qu'il propose ce genre de choses.
Pardonne-moi, dialogue... je t'interromps, je voulais savoir si c'est à Boulogne-sur-Mer ou à Boulogne-Billancourt.
J'allais le dire un peu plus tard.
Non, mais il faut le dire dès le début, parce que moi, je vois nos auditeurs qui sont en train de chercher, mais dans quelle Boulogne? Est-ce à Boulogne-sur-Mer, à Boulogne-Billancourt ou à Boulogne-sous-Issoire?
Avec le plateau de l'huître.
Absolument, voilà.
Bon, eh bien, le studio Horvat est à Boulogne-Billancourt, rue de l'ancienne mairie, voilà, 5, je crois.
Absolument.
Et le studio Franck Horvat, c'est l'endroit où ce grand photographe de mode, entre autres, s'est installé en 1975, ou plus exactement, il l'a acheté en 1975, il l'a pensé et dessiné en 83, et depuis, c'était un peu son lieu de création. Donc on y retrouve tout le nécessaire du photographe, et aussi son fond documentaire. Et c'est son fond documentaire qui est super intéressant à découvrir, puisque il a organisé des petits échanges avec des artistes, d'autres photographes talentueux, et quand vous allez visiter ce fond, vous rencontrez la photo contemporaine, mais contemporaine du XXe siècle.
Bien.
Et là, moi, je vous propose justement cette confrontation entre la photo contemporaine du XXe siècle et la photo contemporaine du XXIe siècle à travers deux artistes qui fonctionnent ensemble, qui s'appellent Édouard Toffenbach et Bastien Pourtout, qui sont des artistes qui se réinventent constamment, qui font des ils ont fait de la céramique, de la photo. Ils sont extraordinaires. Moi, c'est bien simple, je les adore et j'ai même quelques pièces à eux.
La, 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 la.
Et donc, au studio Horvat, ils ont, à travers ce dialogue proposé par le studio et initié par sa fille, puisque sa fille a récupéré le studio ou repris le studio à la mort de son père, Fiametta Horvat. Donc, Fiametta a invité une curatrice, comme elle le fait à chaque fois pour les dialogues. Là, c'est le cinquième, comme je l'ai dit. Mmh. Emilia Gennardi, qui est aussi là, donc est la curatrice de cet épisode et qui c'est cette curatrice qui a proposé ces deux artistes. Et ces deux artistes ont fait le choix de dormir dans le studio pour vraiment s'imprégner de l'ambiance du studio. Oui. Et à la suite de cette petite résidence, ils nous proposent une mise en abîme du studio et de sa maison de campagne dans le Var, et c'est comme et on entre dans l'intimité du professionnel, mais aussi dans l'intimité de la famille du professionnel. Et là, on est dans une matrice phénoménale de création. Et là, moi, je vous propose vraiment d'aller voir cette proposition qui est du 4 novembre jusqu'au 31 janvier.
Il faut venir avec son duvet ?
Non, mais il faut réserver.
Ah, d'accord, très bien.
Donc, Studio Horvat à Boulogne-Billancourt.
Rue de l'ancienne mairie.
Tout à fait.
Absolument. Eh bien, moi, je vais vous parler de Iphigénie en tauride. Je vous avais annoncé le spectacle, parce que c'est un événement. C'est de mon vieux copain Glouc, qui était une star incroyable. Hein. Glouc, Glouc, Glouc. Marie-Antoinette y allait, elle l'adorait. Et là, nous assistons à... J'ai eu une représentation, mais exceptionnelle, véritablement. Musicalement, la direction Louis Langrée, qui est un très grand chef, et Théotime Langlois de Swart alterne. La mise en scène est de Wajid Mouad, avec des textes additifs. Au début, je dois reconnaître que tout le monde sait que je suis légèrement psychorigide sur des trucs. On est dans un univers moderne. On a deux hommes qui... Il y a une peinture qui pourrait faire date, puisqu'on a un corps de femme très rouge avec des poches de sang pour une transfusion. Oh, Jésus, tout à l'heure. Bon. Mais après, on dépasse ça. Wajid est libanais, donc autant vous dire que ce qui se passe le préoccupe, puisque le Liban est un pays en guerre depuis tellement d'années que... Voilà. Et après, on ouvre sur... la tragédie de Iphigénie en tauride. Je repositionne pour les 2-3 du groupe qui ne savent pas qui c'est. Donc Iphigénie est la fille de Agamemnon et de Clytemnestre. Agamemnon, le roi des rois des Grecs. Son frère Ménélas est venu pleurer dans son gilet parce que Hélène est partie avec Paris. Bon, comme je le disais l'autre jour, on la comprend, Hélène, qu'elle soit partie avec Paris. Bon, un jeune pâtre, sémillant, avec ce vieux barbon de Ménélas. Et on rassemble une armada, puis-je dire. Seulement, les vents sont contraires. Alors là, il y a Calchas qui trouve qu'il faut immoler Iphigénie, qui est la fille d'Agamemnon. Clytemnestra, c'est pas d'accord du tout. Elle veut pas qu'on immole sa fille. Alors, on essaye de nous dire que elle a été transformée, selon, par une biche, une gazelle qui a été égorgée à sa place, et qu'elle a été prise par la déesse qui l'a amenée sur, j'ai presque envie de dire, le rivage des Scythes, dans le royaume de Thoas. Alors, Thoas, lui, elle est devenue grande prêtresse et a eu un songe qu'il serait tué par un étranger qui viendrait chez lui. Donc, autant vous dire, c'est pas bon d'être étranger là-bas. On est tout de suite, hop, égorgé. Et qui c'est qui égorge ? C'est Iphigénie, puisqu'elle est devenue la prêtresse du coin. Voilà, donc, je résume, du coin.
C'est précis.
Mais la mise en scène est très très belle, je rigole, mais d'abord très bien parce qu'il résume un peu la famille des Atrides. Nous, tu sais, on les a très bien connus, on a rompu nos relations, on veut plus aller manger chez eux. Non. C'est beaucoup trop dangereux de manger chez un Atride, on sait jamais comment on peut s'en sortir et surtout ce qu'on mange, la table n'est pas très 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 bonne. Mais je dois dire que la distribution est formidable. Iphigénie, c'est Tamara Bounazou. Exceptionnel. Oreste, Théo Hoffmann, Pilade, Philippe Talbot, qui est toujours très bon, Jean-Fernand Setti, Diane, qui est la prêtresse qui a sauvé notre chère Iphigénie. Alors Iphigénie se trouve quand même dans une situation très compliquée, parce que elle va reconnaître Oreste. Mais Oreste, il a tué maman, il a tué Clytemnestra. Pourquoi ? Parce que Clytemnestra a tué Agamemnon. Mais on comprend Clytemnestra. Non seulement il a tué son premier mari et ses premiers enfants, après il lui a fait d'autres enfants, et il est parti. Donc elle était ravie hein, quand il était à Troie. Alors là, pourvu qu'il ne revienne pas, hélas, il est revenu. Bon voilà. Donc Iphigénie étant torride, et il y a les liens du sang. Les chœurs sont d'une beauté, mais exceptionnel. Musicalement, le spectacle est d'un niveau rarement égalé. Et je dois reconnaître qu'à l'Opéra Comique, ça a une résonance absolument toute particulière. Tout le monde, il y a eu une écoute dans la salle et ils ont eu un succès phénoménal. Et j'ai trouvé que la mise en scène de Wajdi Mouad était vraiment très très belle, parce que elle donne le chant aux comédiens, aux chanteurs, parce que les chanteurs sont des comédiens, qu'on arrête d'être étonné, oui, sont des comédiens et ils jouent très bien. On est vraiment ému, on est avec eux et c'est d'une beauté, vraiment, cette symphonie de rouge et de noir sur Iphigénie fait là des plus beaux spectacles que l'on puisse voir actuellement. Dépêchez-vous d'aller le voir à l'Opéra Comique. Il n'y a plus beaucoup de place, mais on a la chance de temps en temps de quelqu'un qui revend une place. Et nous allons écouter Iphigénie en tauride, un extrait de ce magnifique spectacle.
Quel tourment! Ils sont en train de se venger de la nature et de leurs enfants.
quotidien sur IDFM Radio.
Nous avons tous été conquis par la beauté, n'est-ce pas, messieurs?
Oui, évidemment.
Magnifique. Je trouve que finalement, Iphigénie en tauride, cette musique de Gluck n'est pas si éloignée, même si Salomé a été mise en musique par Strauss et c'est superbe. Je trouve qu'il y avait un lien sur, disons, l'Antiquité et les mythes. Le roi a véritablement existé.
Oui.
Le Jean aussi, naturellement, voilà. Donc, alors je ne sais pas si Salomé a véritablement existé. Je ne me suis pas beaucoup intéressée à la question.
En fait,
c'est étonnant.
Salomé est pas présenté comme tel dans la Bible, puisque dans l'épisode biblique, on dit « une fille d'Hérodiade ». Donc, il n'y a pas de trace de son prénom, en tout cas dans l'épisode biblique. Mais c'est vraiment devenu un mythe, c'est devenu mythique, parce que tout le monde a repris cette figure-là, que ce soit Titien, le Caravage, après le tableau de Gustave Moreau, avant...
Ah, qui est superbe.
Et magnifique. Ah. Et d'ailleurs... il y a à la maison de Moreau plusieurs tableaux qu'il a fait de Salomé. On n'en connaît qu'un seul, mais il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, absolument.
Il y a même des schémas. Enfin, on a vraiment un œil sur la création qu'il a eue de cette toile-là. Et puis après, ça a été repris par Wilde et par Strauss pour son opéra. Mais voilà, dans l'épisode biblique, on ne parle pas de Salomé.
Mmh. Oui, c'est
il y a un personnage Salomé qui a existé. On l'a rapproché du personnage biblique, on a retrouvé des pièces à l'effigie de cette Salomé historique, et on l'a rapproché, cette Salomé historique, de la fille d'Hérodiade biblique, sans avoir une preuve à 100% que ce soit la même personne.
Alors, on redit tout de suite que le spectacle se joue très peu, donc il faut redonner les dates et le lieu, c'est très important.
Oui, alors Les Fascinés jouent au théâtre de la Jonquière, du 19 au 22 novembre, à 20h.
Ça, c'est important. J'étais persuadée qu'il y avait une matinée, non?
Non, il n'y a pas de matinée.
Il n'y a pas de matinée. Johan.
Théâtre de la Jonquière qui est dans le 17e arrondissement.
Exactement.
À Paris.
Et je voudrais que tu reparles de ton coup de cœur, Les Amants.
Alors, Les Amants terribles. Terrible. Au théâtre Le Funambule de Carole Giacobbi et Stéphane Vautier. Je vous le conseille, c'est jusqu'au 16 novembre. Courez-y.
Ah oui, il faut courir parce que là, on a très peu de temps. Hein.
Ah ben oui, mais quand c'est bon, il faut se dépêcher.
Voilà, absolument. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que parfois, on est pris par le temps, par différentes choses. On en parlera plus avant, mais je suis allée voir cette semaine Cher Evan Hansen au Théâtre de la Madeleine. Alors, Cher Evan Hansen, c'est de Steven Levinson. Et ça a été un musical qui a été récompensé par Tony and Grammy Awards. Et oui, je suis absolument bilingue, voilà. Et moi, c'est comment vous dire, l'histoire qui m'a touchée. Evan, c'est un lycéen qui est très très mal dans sa peau. Il n'a pas d'amis. Sa mère veut qu'il aille voir son psy. Son psy lui donne des devoirs, mais il a pas d'amis, il sait pas se positionner. Et dans ce collège, il y a Connor. Alors Connor, lui, c'est un révolté. Il a pas d'amis non plus. Il veut pas aller au lycée. Il a quand même balancé dans la tronche d'une de ses professeurs une imprimante. Ça a été très mal pris. Elle l'a très très mal pris. Faut pas faire ça non plus. Bon, tous les deux sont en rupture et affective et dans la société. Or, un jour, Evan, il est tout seul dans la salle et il fait une lettre que lui a demandé de faire son psy en s'adressant à lui. Donc, il commence par « Cher Evan Hansen », tout ça. Et Connor, le bad boy du coin, vient et lui pique sa lettre et il s'en va avec. Seulement, Connor se suicide. Ce qui est une stupéfaction totale pour ses parents qui ne comprennent pas. Les parents, mais ça arrive énormément. Ça ne sort pas aux États-Unis, mais en France, ça arrive. Pourquoi un adolescent, enfin, ils ont 18 ans, se suicide sans qu'ils s'en rendent compte? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont mal fait? Il y a une question de responsabilité de la famille, mais de la société. Or, ils trouvent la lettre, Cher Evan Hansen, et ils sont persuadés que c'est Connor qui l'a écrite. Et pourquoi? Qui est Evan Hansen? Est-ce que c'est son ami? Il se raccroche à ça. Donc, on va avoir un circuit, un enchaînement terrible de mensonges, de non-dits. C'est chanté. Bah oui, c'est une comédie musicale. Alors, les lyriques ont été faits par Oshii. Moi, j'aime beaucoup Oshii. La mise en scène et l'adaptation, Olivier Soliveres, donc ça déjà c'est imprimé, c'est excellent. Et on a une troupe absolument incroyable. Alors, cher Evan Hansen, c'est une révélation, c'est Antoine Le Provost qui non seulement est bon comédien, mais il porte. Et moi j'ai vu ce spectacle avec une salle où il y avait beaucoup de jeunes, parce que ça leur parle. Il y a une très grande générosité là-dedans, où on se dit, bah oui, l'autre, on le voit pas, qu'est-ce qui se passe? Et donc une prise de conscience aussi par rapport à ça. Donc c'est une bonne occasion d'y aller avec vos enfants qui sont très touchés par ça. Et il y avait une ambiance formidable. Je dirais quand même si on m'a demandé de pas le dire, mais je peux pas. Je trouve que un petit quart d'heure est en trop. Mais c'est mon opinion. Le public, lui, n'était pas lassé. Standing ovation à la fin. Hein. Les gens étaient fous de joie de voir ça. Donc, on en reparlera plus tard avec des extraits musicaux et de parler de tout ça. Le mois de la photo, il y en a un peu partout, Johan.
Tout à fait, vous en avez partout
au
mois de novembre, au Grand Palais, dans la plupart des galeries, et aussi à Boulogne-Billancourt, au studio Franck Horvath, qui présente le dialogue numéro 5 avec les artistes contemporains, Édouard Toffenbach et Bastien Pourtout.
Je viens d'avoir un appel pour me dire oui, il y a le mois de la photo également à Boulogne-sur-Mer et Boulogne-sur-Isoire. Donc tu vois, il faut pas non plus être sectaire. Il y en a un petit peu partout.
Tout à fait.
On va commencer quand même à faire déjà. On va revenir sur tout ce que nous avons dit. Le DVD 13 jours 13 nuits. Pâté, il faut absolument le voir. J'ai été scotché par ce film remarquable de Martin Bourboulon avec Roche Dizem, Lina Koudry, Sidze Babek Nunsen et mon petit Christophe Montenez. Bon, voilà, j'aime beaucoup Christophe Montenez. Voilà. Nous avons également parlé du livre de René Barjavel, La nuit des temps, édition collector Les Presses de la Cité. Moi, j'aime bien la couverture bleue, comme ça, c'est très beau. Et c'est vraiment une très, très belle histoire. C'est magnifique. Faust X a repéré... en tournée, parce que si vous ne connaissez pas le travail de Brett Bailey, c'est à remarquer avec des masques, des accessoires, avec une troupe tout à fait extraordinaire. Il faut véritablement le voir. Iphigénie en Tauride, c'est à l'Opéra Comique, c'est jusqu'au 12. Donc il faut vous dépêcher.
Voilà.
Pas que moi. Mais, surtout. Je suis très heureuse d'avoir des auteurs vivants sur scène. Et c'est ça qui est formidable, parce que Glouc, il a pas voulu venir, hein. Donc, voilà. Donc, c'est un travail. C'est pas trop un chemin de croix de monter sa première pièce.
Pas tellement, c'est plus la réécriture qui au début était un petit peu bancale parce que fallait que je trouve un peu l'endroit où me positionner, pourquoi je faisais ça, à quel point je reprenais Wild ou pas. Donc voilà, ça a été quelque chose de... Il y avait forcément une volonté de transmission de cette histoire, oui. Mais aussi une nécessaire actualisation. Et c'est là-dessus que moi j'ai voulu donc me pencher et creuser la psychologie des personnages et aussi y mettre un peu de comique, parce qu'avec ce décalage qui est entre leur époque et la nôtre... Oui. En fait, c'est assez facile d'y trouver du comique.
Voilà. Oui, tout à fait. Ouais.
Mais je voulais aussi que les personnages soient tous duels. C'est-à-dire que je voulais un peu complexifier la chose. Je voulais qu'ils aient tous une partie un peu monstrueuse, un petit peu grotesque, burlesque presque, et puis une partie plus humaine qui, en fait, se dévoile pour chacun individuellement petit à petit parce que Jean ou parce que Salomé, surtout, vient tendre un peu un miroir à chacun des personnages.
Ouais.
Donc voilà, dans cette course, on va dire, à la fatalité, puisqu'on connaît un peu le mythe, je voulais que chacun des personnages ait un peu une porte de sortie, un moment où ils puissent se libérer de leurs conditions.
Et de leur frustration.
Oui, de leur frustration.
Parce qu'ils sont tous frustrés, ces gens-là.
Exactement. Ouais, et il y a une vraie dynamique de... en fait, si ça s'appelle les fascinés, c'est parce que c'est à la fois... immobiliser quelqu'un par le regard quand on le fascine, et en même temps être fasciné par quelqu'un, c'est-à-dire être complètement à l'arrêt, subjugué et arrêté par le regard. Donc c'est pour ce double mouvement que j'ai appelé la pièce « Les fascinés ».
Voilà. Voilà, bah merci beaucoup d'être venus. On est très impatients de découvrir votre spectacle. Merci à tous les trois d'être venus.
Merci
IDFM 98. Merci Francky. On se retrouve naturellement vendredi prochain avec Agnès qui va vous dévoiler plein de choses, entre autres une pièce que je l'ai expédié voir sur Dostoïevski, et on se retrouvera, on parlera d'exposition et de moult choses, et on entamera certainement nos idées pour un Noël malin et heureux. Allez au théâtre, allez à la musique. Merci à tous et revenez sur IDFM Radio 98, toute la culture que j'aime. Chez nous, on vous aime, un point, c'est tout.